J'avais trois sujets potentiels. D'abord, comme l'a rappelé le président Serratris, la néphrologie, les maladies rénales et toutes les évolutions qui se sont fait jour au cours des dernières années, notamment par le biais de nouvelles connaissances en immunologie et en transplantation rénale. C'est pas ce que j'ai choisi. La deuxième solution, c'était le deuxième thème concerne l'évolution de l'offre de soins, l'évolution des métiers de la santé, réflexion auxquelles je participe depuis 2002. Et là, je viens encore d'être chargé de mission par Valérie Pécresse et Roselyne Bachelot pour un rapport qui doit être rendu le 16 novembre sur le nouveau métier de la santé. Et puis, ce n'est pas le sujet que j'ai choisi. Et j'ai choisi aujourd'hui parce que j'y étais fortement aussi incité. De parler de l'avenir des universités sur le site d'Aix-Marseille. Ceci étant, devant une assemblée comme la vôtre, bien entendu, je ne vais pas me contenter de parler simplement de l'avenir et de vous rappeler, pour ceux qui suivent ça de près, eh bien, ce qui est envisagé sur le site. Je crois que l'avenir ne se construit que si on tient compte du passé. Et je souhaite vous rappeler ce que a été l'université sur le site d'Aix-Marseille, comment elle s'est construite, comment les différents champs de disciplines se sont développés. Et c'est par ça donc que je commencerai. Et puis, bien entendu, on en arrivera au projet d'Aix-Marseille Université, dont l'aboutissement doit intervenir le 1er janvier 2012, et je vais vous dire pourquoi et surtout comment on en est arrivé là. Alors, quand on parle des universités sur le site d'Aix-Marseille, il ne vous a pas échappé ce qui est une très grande difficulté dans la construction d'Aix-Marseille Université, que cette université qui a un pied à Aix, un pied à Marseille. Et donc l'histoire nous rappelle cela. Les premiers temps de l'université à Aix, si on refait un peu d'histoire, on peut dire que, et si on se remet autour du XIIIe siècle, l'Europe compte à la fin du XIIIe siècle une vingtaine d'universités, dont 5 sur le territoire actuel de la France. Nous sommes aujourd'hui à 83 universités. 25 nouveaux centres d'études supérieures apparaissent au XIVe siècle, donc 5 dans l'espace français, à Avignon, Cahors, Grenoble, Perpignan et Orange. Ce n'est plus des très grandes métropoles. À l'arrière-plan de ces nouvelles créations se situe désormais essentiellement le rôle des princes, qui va aller en se renforçant au cours du XVe siècle. Il s'agit pour eux de renforcer le prestige de leur capitale et d'assurer la formation des élites, dont leur gouvernement a besoin. La multiplication des universités va de pair avec la mise en place de l'État moderne. Charles II, roi de Naples et comte de Provence, a ainsi soutenu la fondation de l'université d'Avignon en 1303, ville dont il est le seul maître depuis 1290. Mais l'installation de la papauté à Avignon change la donne. Elle modifie aussi les conditions de vie, déjà, dans une capitale pontificale où l'afflux de population provoque une hausse des prix et des loyers qui perturbent la vie universitaire. Le roi Robert conçoit alors le dessein de transférer l'université à Aix, d'Avignon à Aix, au moins provisoirement. Une lettre du souverain qui date de 1318 entend réformer le stadium avignonnais, déformer et empêcher en l'installant à Aix, où les maîtres et les étudiants jouiront des mêmes privilèges et où les autorités municipales s'attacheront à garantir la modicité des loyers et le juste prix des vivres. Il faudra attendre près d'un siècle pour que ce dessein s'accomplisse à la faveur du grand schisme. Les princes ont besoin d'un rôle moteur dans la création des universités, il faut qu'ils obtiennent l'assentiment du pape qui seul peut conférer au nouveau centre d'études le caractère de stadium général et lui permettre de délivrer une licence valable dans toute la chrétienté. Une conjoncture favorable se dessine avec le concile de Pise. réuni en concile à Pise le 25 mars 1409, quelques cardinaux, dont deux obédiences déposent, le 5 juin, les deux papes rivaux élisent le 26 juin un pape qui devrait être celui de l'unité, Alexandre V. Louis d'Anjou a la bonne idée de prendre parti très vite pour ce nouveau pape, et Alexandre V le récompense le 19 août en lui conférant le titre de gonfalonier de l'Église et lui donne l'investiture du royaume de Naples. La bulle, et c'est là que ça commence, du 9 décembre 1409 crée l'université d'Aix. Le pape y confirme les privilèges que le souverain a accordés aux maîtres et écoliers qui viendront enseigner et étudier à Aix. Il garantit aux maîtres et étudiants en théologie et en l'un et l'autre droit, droit canonique et droit civil, et dans les autres facultés, le bénéfice des privilèges octroyés aux universités de Paris et de Toulouse. La ville contribue à l'établissement de l'université. Elle prend en charge la rémunération du premier professeur de droit canonique. Vous voyez, avant Madame Joissin, déjà, on s'occupait. Jean de Vitrolles, qui enseigne à Aix à partir de 1412. Elle recrute en 1430 un professeur de droit civil qui habite Marseille, Jean Reynaud, et lui promet un salaire annuel de 150 florins. Ça, c'est l'université à Aix et ses débuts. L'université à Marseille. Capitale culturelle en terre ligure puis latine, puis latin, Marseille est dès le 1er siècle de notre ère célèbre par ses écoles de médecine et de rhétorique. Donc en 1409, il y a la création de l'université d'Aix-en-Provence et en juin 1791, la Révolution lui substitue diverses facultés à Aix et à Marseille. Le 21 avril 1891, le conseil municipal adopte à l'unanimité l'implantation de l'école de médecine dans le palais du Pharaon. L'architecte en chef de la ville, M. Huot, dirigea les transformations du palais. Il dressa également les plans de l'Institut d'anatomie, qui est aujourd'hui le siège de l'Université de la Méditerranée, dont la construction commença en 1893 et se termina en 1896. Alors, lorsqu'on parle de l'université à Marseille, eh bien évidemment, on doit faire aussi référence à tout ce qui s'est passé dans le cadre de la médecine, partant de l'université de Massilia à la faculté de médecine de la Timone. Quelques mots d'histoire. Au 1er siècle de notre ère, Marseille, surnommée l'Athènes des Gaules, possède une école de médecine très réputée qui rayonne sur toute la Gaule et le bassin méditerranéen. Les jeunes Romains viennent étudier la médecine à Marseille. Avec la chute de l'Empire romain, l'université de Massilia et son école de médecine disparaissent. L'enseignement de la médecine perdure cependant sous forme de compagnonnage. Les futurs médecins, chirurgiens et apothicaires, aujourd'hui pharmaciens, se placent en apprentissage auprès d'un praticien établi. Au XVIIe et XVIIIe siècle, médecins et chirurgiens se constituent en collège assurant l'enseignement des étudiants ainsi qu'un contrôle des connaissances. L'enseignement est le fait uniquement d'initiatives privées. À la Révolution, les facultés et les écoles sont dissoutes. Lors de la réorganisation des enseignements par la Convention, 22 écoles de médecine sont créées en France. Aujourd'hui, il y a 34 facultés de médecine. Marseille sera l'une d'elles, mais on en est au stade d'école. En 1818, l'école secondaire de médecine et de pharmacie est ouverte dans les locaux mêmes de l'Hôtel Dieu. Pour la première fois, il s'agit d'une école publique délivrant un enseignement de médecine, de chirurgie et de pharmacie. En 1893, l'école de plein exercice s'installe au palais impérial du Pharaon. Il faudra de longues années avant que l'école de plein exercice ne se transforme en faculté de médecine, parce que Montpellier, jalouse de son titre très ancien de faculté de médecine et soucieuse de ses intérêts économiques, multiplie les obstacles à la transformation de l'école de médecine de Marseille en faculté. En 1930, Marseille a enfin sa faculté de médecine qui porte le titre de faculté de médecine générale et coloniale et de pharmacie, et on va fêter le 10 décembre les 80 ans de cette faculté de médecine. En 1958, la faculté de médecine générale et coloniale quitte le Pharaon pour s'installer sur le campus de la Timone. Les temps ayant changé, le terme de colonial disparaît et c'est la faculté mixte de médecine et de pharmacie qui s'installe à la Sinon. La même année, la réforme met en place les centres hospitaliers universitaires, les CHU, avec le plein temps et la triple mission, encore d'actualité, enseignement, soins et recherche. En 1970, la faculté de pharmacie devient autonome. Sur le campus de Latimone, il y a dorénavant l'hôpital, appelé CHU, la faculté de médecine, la faculté de pharmacie et la faculté d'odontologie. Si l'enseignement de la médecine à Marseille ne s'est jamais interrompu depuis le début de notre ère, il a connu des périodes plus ou moins fastes. Depuis quelques décennies, la faculté de médecine de Marseille, dans le cadre de l'Université de la Méditerranée, a retrouvé tout son éclat. Alors aujourd'hui, nous sommes, après cette histoire d'université implantée à Aix, à Marseille, nous sommes avec trois universités. Nous en sommes arrivés, là comment? Eh bien, de la fin du XIXe siècle jusqu'en 1968, l'ensemble des facultés étaient regroupées dans l'université d'Aix-Marseille, qui était présidée par le recteur. En application de la loi du 12 novembre 1968, cette université s'est séparée d'abord en deux établissements, Aix-Marseille 1, je vais y revenir, et Aix-Marseille 2, qui sont créés en 1970. Et puis, en 1973, Aix-Marseille 2 se sépare en Aix-Marseille 2 et Aix-Marseille 3, pour des raisons que chacun autour de la table connaît, que je ne vais pas rappeler. Aujourd'hui, Aix-Marseille 1 a le monopole du secteur des lettres et des sciences humaines. C'est l'Université de Provence qui dispense des formations en arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales, et en sciences et technologies. Elle est implantée sur Aix, sciences humaines, langues, et sur le pôle de l'Étoile et sur le pôle Saint-Charles à Marseille, pour ce qui est notamment des sciences et technologies. Elle compte environ 23 000 étudiants. Aix-Marseille 2 a le monopole de la santé. En dehors des formations de santé, médecine, pharmacie, odontologie et, depuis le 1er septembre 2009, également de la maïeutique, c'est-à-dire qu'on a intégré l'école de sage-femme, première université en France à avoir intégré une école de sage-femme depuis le 1er septembre. À côté de la santé, il y a les sciences, sciences du sport, et école de journalisme, économie et gestion, il y a un peu plus de 23 000 étudiants, et donc cette université comporte 13 composantes. Elle est sur Aix, Marseille, un petit peu sur Gap, et sur La Ciotat. Puis Aix-Marseille 3, qui est devenue l'université Paul Cézanne, a le monopole du droit, mais dispense également de la formation en économie-gestion et en sciences et technologies, environ 22 000 étudiants et comporte 6 facultés et un institut. Alors vous voyez que quand je décris Aix-Marseille 1, Aix-Marseille 2 et Aix-Marseille 3, même si je suis allé très vite et même si je renouvelais l'explication, vous aurez du mal les uns et les autres, comme j'ai eu également moi-même beaucoup de mal très longtemps à bien comprendre ce qu'était Aix-Marseille 1, Aix-Marseille 2 et Aix-Marseille 3. Et c'est pour cela, notamment, qu'en 2004, quand j'ai pris la présidence de l'Université de la Méditerranée, je me suis fixé comme premier objectif, et c'était le premier objectif de ma profession de foi, qui comportait une trentaine de pages, de tout faire pour fusionner les trois universités. Et je vais vous en donner les raisons. Parce que pourquoi une université unique est nécessaire? Tout le monde est d'accord, à Aix-Marseille, la recherche est excellente. Mais elle manque de lisibilité, de visibilité. Riche de l'ensemble des champs de la connaissance, elle est donc particulièrement apte à relever les défis de l'avancée des savoirs. Donc chacun sait qu'ils seront de plus en plus intégratifs et donc interdisciplinaires. Tout le monde est d'accord, à Aix-Marseille, l'offre de formation est particulièrement riche. En écho à l'activité de recherche est de plus en plus en phase avec les besoins d'insertion professionnelle des diplômés et du monde socio-économique. Mais elle manque trop de lisibilité. Tout le monde est d'accord aussi pour regretter que cette recherche ne soit pas mieux organisée, mieux valorisée. Recherche et formation sont distribuées entre les trois universités, deux universités des livres des formations en sciences économiques et gestion, les trois universités des livres des formations en sciences. Cette situation crée à la fois des compétitions pour les domaines partagés, économie-gestion, sciences, des ignorances entre les domaines isolés, le droit ne parle pas à la santé, qui ne parle pas aux sciences humaines, qui ne parle pas à la santé, qui sont autant de handicaps pour le développement de la connaissance. Aix-Marseille dispose de l'Université des Champs des Savoirs, mais n'en jouit donc pas pleinement, ni autant qu'il serait raisonnable et utile. Depuis plusieurs années, nombre de laboratoires et de diplômes sont partagés par deux ou trois universités en sciences surtout. Les relations interuniversitaires qui se sont organisées ces dernières années témoignent d'une prise de conscience des difficultés et d'une volonté de rapprochement. Elles ont désormais atteint leurs limites en termes de logique et pratique institutionnelle, de service aux étudiants, de visibilité extérieure. Elles ne sont plus que des pis-aller allant de la solution d'urgence au replâtrage, voire au simple masquage des incohérences. Elles ne pourraient être prolongées sans dommage. Dans le domaine de la formation, elles ont laissé persister des doublons que seule la logique unitaire peut faire disparaître. Aussi étroite soit-elle, une simple coopération, ce qui est le cas aujourd'hui, des trois établissements ne saurait mettre en relief toutes les complémentarités et synergies disciplinaires, ni éviter les phénomènes de concurrence. Elle n'offrira à cette collaboration donc pas des conditions satisfaisantes, ni à la concertation préalable, ni à la mise en place d'une offre de formation innovante, adaptée aux attentes professionnelles des nouvelles générations, ni à un affichage cohérent et fort de cette offre renouvelée. Une université unique doit permettre une concertation approfondie entre toutes les disciplines et constituera le cadre adéquat à la création de diplômes originaux. La future offre de formation devra voir fortement s'amplifier le nombre d'étudiants, le nombre de diplômes intégratifs de plusieurs disciplines actuellement souvent répartis sur plusieurs universités. L'urgence n'est pas moindre dans le domaine de la recherche, même si elle est en partie masquée par des collaborations qui sont un petit peu plus prégnantes. Il importe d'une part d'améliorer l'intégration au sein des équipes, inévitablement affectées par les différences d'appartenance institutionnelle des enseignants-chercheurs, chacun à son maillot, U1, U2, U3, parfois dans le même laboratoire. Plus profondément, la création d'une seule université doit créer là aussi les conditions favorables à des échanges approfondis entre les disciplines. Il importe enfin de fortifier l'université dans le cadre du futur paysage de la recherche. À ces raisons, propres au monde universitaire, s'en ajoutent d'autres, externes. Deux poids certes inégales mais toujours importantes et qui peuvent se lire sous forme d'attente. C'est d'abord l'attente de nos concitoyens, parents d'étudiants ou étudiants eux-mêmes, une offre de formation lisible à la fois dans sa structure et dans ses débouchés. C'est ensuite celle du tissu dit socio-économique, souvent étranger au monde universitaire, qui attend d'abord un interlocuteur clairement identifiable pouvant engager l'université et devenir ensuite un partenaire dans le cadre de contrats de recherche et de débouchés professionnels pour les étudiants. Enfin, une troisième attente est celle des pouvoirs publics, État et collectivités territoriales. La création d'une seule université permettra de transcender les clivages politiques. Ce projet fait l'objet d'une attente unanime chez tous ceux, État, région, conseil général, municipalité, qui souhaitent l'affirmation sur Aix-Marseille d'un pôle d'excellence universitaire qui soit une référence au niveau international, en même temps qu'une impulsion pour la société et l'économie régionale, s'appuyant sur les deux villes, Aix-en-Provence et Marseille. Pour nos interlocuteurs extérieurs, notre découpage universitaire est soit ignoré, soit perçu comme obsolète ou aberrant. En France, même les découpages universitaires issus de la loi de 1968 sont devenus illisibles, dépourvus de sens parce que liés à une conception périmée des disciplines scientifiques, voire à des épisodes internes dont, heureusement, on a perdu la mémoire, notamment pour la séparation entre Aix-Marseille 2 et Aix-Marseille 3. Ce souhait unanime de nos interlocuteurs et partenaires extérieurs de n'avoir qu'un interlocuteur rejoint les exigences propres à l'institution universitaire. En définitive, à partir d'une qualité scientifique certaine reconnue au site, le constat a été fait que le découpage d'Aix-Marseille Université, fruit d'une histoire complexe et mouvementée, nuit à sa lisibilité et à sa visibilité au plan régional, national, européen, international. Au moment où le paysage universitaire évolue et où les universités françaises sont confrontées au processus de mondialisation et de mise en concurrence compétitive, la fusion qui doit se concrétiser au 1er janvier 2012 s'inscrit dans une volonté de rationalisation de notre paysage universitaire. Dans ce projet, il y a des valeurs fondatrices pour l'université unique. Quelles sont-elles ? Aix-Marseille Université sera une communauté de femmes et d'hommes organisées de façon autonome et assumant en commun une même mission de service public. La création, la transmission et la valorisation des connaissances. L'université créera pour tous ses personnels des conditions et un environnement de travail permettant à chacun dans son domaine de compétences de contribuer au mieux à l'accomplissement de cette mission. Lieu d'une pensée libre, indépendante et ouverte au monde, l'université mettra tout en œuvre pour faciliter à ses étudiants l'accès à une formation permettant tout à la fois l'acquisition d'une culture académique, mais aussi leur insertion professionnelle et sociale. L'enseignement dispensé par Aix-Marseille Université visera à former des hommes et des femmes cultivés et éclairés, capables de contribuer au développement social, culturel, politique et économique de la société. Il se conjuguera au passé, au présent et au futur, car il ambitionnera la conservation, la transmission et la production de la connaissance pour tous. La recherche, indispensable au développement de la société, a pour principal objectif de contribuer à la connaissance de l'être humain, du monde qui l'entoure et de leurs rapports. Son exercice suppose la liberté d'entreprendre, éduquer appelle étymologiquement une sortie hors de soi. Au-delà des personnes, la mission éducative de l'université s'applique à la société elle-même, qu'elle a le devoir d'aider et dépasser la réalité immédiate ou à court terme. Dans une société en transformation constante et désormais accélérée, l'université veillera à préserver ce qui la distingue et la caractérise, l'alliance de la recherche pure et de la recherche finalisée, la formation à l'exercice d'un esprit critique et cultivé, allié à des connaissances, donnant des compétences et garantissant une insertion réussie. Alors, avec ce projet, quel est le chemin que nous avons parcouru ? Où en sommes-nous ? Les trois universités d'Aix-Marseille, donc l'Université de Provence, l'Université de la Méditerranée et l'Université Paul Cézanne, ont décidé en juin 2007 de mettre tout en œuvre pour fusionner et créer Aix-Marseille Université. Leur conseil d'administration respectif, maître au final du processus, leur ont donné un mandat de négociation en ce sens. Les conditions de la réalisation de l'université unique ont ainsi donné lieu à des réflexions collectives dont il ne faut pas sous-estimer ni l'ampleur ni les résultats. Les instances créées à la suite de la réunion du 11 juin 2007 ont été mises en place à partir de l'automne 2007. Groupe stratégique, groupe opérationnel, comité de suivi, comité de pilotage. Les réunions ont permis une meilleure connaissance mutuelle, humaine et institutionnelle. Il fallait apprendre à se connaître. L'état d'esprit général a toujours été celui d'une volonté manifestée par les trois universités d'aller de l'avant dans un climat de vraie cordialité. Les groupes ont dressé un bilan clair de la situation présente de leur domaine de réflexion. La plupart ont formulé des propositions d'organisation pour la future institution. Au terme de la première année de travaux, le comité de pilotage a pu soumettre à l'automne 2008 au conseil d'administration des trois universités un document fixant les orientations majeures de la structuration et de la gouvernance de la future université. Ce document a reçu l'approbation de chacun des conseils, donc à l'automne 2008. Le 8 décembre 2009, les trois conseils d'administration ont voté les principes fondateurs de l'université unique. Il s'agit d'un texte de 50 pages qui décrit précisément ce que nous souhaitons collectivement comme établissement à partir du 1er janvier 2012. Le 15 octobre 2010, les trois universités, pour la première fois de leur histoire, ont fait remonter au ministère de l'Enseignement supérieur le même projet d'établissement, le même projet stratégique pour l'offre de formation, l'organisation de l'établissement et l'organisation de la recherche. Alors, cette fusion n'a pas pour ambition, comme parfois certains le disent, de créer simplement la plus grande université française par le nombre d'étudiants. Mais elle s'inscrit dans la volonté d'installer sur le site d'Aix-Marseille un établissement d'enseignement supérieur dont la richesse disciplinaire sera unique en France, ce qui lui permettra d'accéder au tout premier rang européen et mondial. Même si chacune des trois universités a ses qualités et sa reconnaissance dans tel ou tel champ disciplinaire, la fusion ne doit pas se traduire par une juxtaposition, mais bien par la création d'un vrai nouvel établissement qui a pour ambition de devenir la capitale des savoirs du sud de l'Europe, ouverte sur le monde, notamment dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen. En effet, la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, dite loi LRU, loi Pécresse, et le passage aux responsabilités et compétences élargies, dit autonomie des universités, c'est un nouveau type d'université qui doit être créé, autonome, ambitieuse, responsable, exigeante. Un établissement au service des étudiants, de leur formation et de leur insertion professionnelle, au service de la recherche et de sa valorisation, en lien étroit avec les principaux organismes de recherche, nationaux et internationaux, avec le tissu socio-économique régional et la société, assurant un service public de qualité. L'interdisciplinarité, facteur essentiel de progrès en recherche et de l'adaptation de la formation initiale et continue à de nouveaux métiers, doit être un des objectifs de l'université unique, facilitant les interactions entre les disciplines réparties aujourd'hui dans les trois universités. Droit et sciences politiques, santé, sciences et technologies, sciences économie et gestion, arts, lettres, langues et sciences humaines. Dans ce projet ambitieux, au-delà de la définition des axes stratégiques d'Aix-Marseille Université, il est important de s'interroger sur sa gouvernance, ou en d'autres termes, sur la capacité de notre organisation à être performante. L'université doit ainsi se doter d'instruments de mesure de performance, de dispositifs d'évaluation de la qualité de ses enseignements et de sa recherche, et devra développer et renforcer ses partenariats externes. Tout cela ne peut pas être envisagé sans une organisation politique et administrative cohérente, sans un renforcement des grandes directions de l'université, sans un pilotage partagé, éclairé, mais fort. S'il faut se méfier d'une rupture trop brutale, il faut construire un changement continu, exigeant, sur la base de notre autonomie. Alors demain, Aix-Marseille Université, ça sera quoi? Ça sera 70 000 étudiants, dont 10 000 étudiants étrangers, 3 700 enseignants et enseignants-chercheurs, 2 900 ingénieurs, administratifs et techniciens, 800 000 mètres carrés de surface, dont 25% dévolu à la recherche et réparti sur les sites d'Aix-en-Provence, Marseille, Arles, Aubagne, Avignon, Digne, Gap, La Ciotat, Lambesc et Salon. 5 champs disciplinaires, le premier arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales, il n'y aura plus qu'une seule faculté qui réunira langue, art, langue, lettres, sciences humaines et sociales. Une seule faculté. Droit et sciences politiques. Il y a une faculté de droit et de sciences politiques qui va persister, et dans ce secteur droit sera ajouté l'Institut de management. Économie et gestion. Une seule faculté d'économie et gestion, là où aujourd'hui il y en a deux, et chacune des deux a une implantation à Marseille, une implantation à Aix. Les implantations à Marseille sont séparées par la Canebière et les implantations à Aix sont séparées par le chemin de fer. Plus qu'une seule faculté de sciences économiques et de gestion. L'IAE, l'école de journalisme, l'Institut régional du travail. La santé, médecine, pharmacie, odontologie, et je vous l'ai dit, l'école de maïeutique, l'école de sage-femme. Sciences et technologies. Aujourd'hui, il y a trois facultés de sciences et technologies, plus qu'une seule faculté de sciences et technologies. Plus qu'une seule. Il y a aujourd'hui des observatoires, la mer, la terre, le ciel. Il n'y aura plus qu'un observatoire qu'on appelle l'OSU PITEAS. Il y a deux écoles d'ingénieurs, l'une à Lumini, l'une sur le pôle de l'Étoile. Il n'y aura plus qu'une seule école d'ingénieurs. Et puis, la faculté des sciences du sport. Vous voyez, on a aujourd'hui une quarantaine de facultés, d'écoles, d'instituts. À terme, il y en aura plus que 16, avec une beaucoup plus grande visibilité. Et il faut associer les IUT, qui à terme fusionneront, et l'IUFM, qui restera pour la formation des maîtres. Le potentiel de recherche, 150 laboratoires labellisés, 4000 doctorants répartis dans 12 écoles doctorales. Et cette activité de recherche, en lien avec la valorisation une société d'accélération du transfert technologie qui va être créée dans le cadre du grand emploi, du grand emprunt, et qui permettra donc de valoriser toute l'activité de recherche de Aix-Marseille Université. Valorisation qui sera elle-même en lien avec les deux incubateurs, Impulse et Belle de Mai. Et aujourd'hui, il faut rappeler que ces deux incubateurs, grâce à toute la recherche en amont, ont créé plus de 110 entreprises. Ainsi, en considérant notre passé, qu'il ne faut pas oublier, nous devons construire notre avenir et nous rappeler à nos devoirs. La fusion toute proche des universités est un devoir, mais également à la formation dans la capitale du sud de l'Europe de l'élite de la région, si ce n'est celle de la nation. La petite part de l'histoire que nous sommes en train d'écrire n'est pas la plus facile ni la plus difficile. Mais il en va de notre responsabilité envers les générations futures d'avoir le courage aujourd'hui de créer une université à notre image, comme nos prédécesseurs, avec les exigences qui sont les nôtres, faire rayonner notre université dans le monde grâce à une formation et une recherche d'excellence. De par nos différences et en scellant notre alliance, nous porterons ensemble un projet d'avenir riche et audacieux dans les domaines scientifiques dont nous avons la dignité et dont nous sommes les héritiers. C'était une opportunité à saisir et je suis personnellement fier de pouvoir fonder avec mes deux collègues, président Caverny et le président Pena, respectivement président de l'Université de Provence et de l'Université Paul Cézanne, un avenir commun et brillant à Aix-Marseille, dans un très grand respect de nos traditions, car je suis résolument tourné vers l'innovation et le changement, dans le but, bien sûr, de produire un enseignement et une recherche de qualité à l'université, de conserver cette exigence et de la transmettre. Je vous remercie.
Monsieur Blanc, qui va certainement
S'agissant effectivement de ce que nous allons rassembler dans Aix-Marseille Université, l'histoire a fait qu'il y a un certain nombre de campus qui sont répartis sur la ville de Marseille, sur la ville d'Aix, et donc bien évidemment l'objectif n'est pas demain matin, par un coup de baguette magique, de rassembler tout ça. Mais on voit bien que sur cette aire d'Aix-Marseille, on identifie cinq grands campus qui ont une coloration spécifique. Tout d'abord, Aix, notamment le quartier des facultés, c'est sciences humaines et sociales. Puis, sur Marseille, Marseille Nord, c'est un pôle d'ingénierie. Puis, sur Marseille Centre, c'est plurithématique, puisqu'il y a un peu de lettres, un peu de droit, un peu d'économie-gestion, surtout premier cycle pour la formation. Troisième campus très thématisé, Timon, campus santé. Et puis, quatrième campus. Et cinquième campus, quatrième à Marseille, c'est l'UNI, qui est science du vivant. Alors, l'erreur, à mon sens, qu'il ne faudrait pas commettre, parce que ça serait à terme très pénalisant, c'est de construire pour l'avenir des campus extrêmement thématisés, car ça serait néfaste pour la recherche. Il n'est plus possible aujourd'hui d'envisager de la recherche en sciences du vivant si vous ne collaborez pas avec des physiciens, avec des mathématiciens, avec des informaticiens. Et donc, il y a nécessité, certes, de colorer très fortement la thématique recherche sur chacun des campus, mais surtout de ne pas faire des ghettos disciplinaires qui feraient qu'à l'inverse de ce que l'on doit construire, c'est-à-dire la pluridisciplinarité, on remette la recherche dans un champ monothématique qui n'est absolument pas la recherche d'avenir. Donc il faut qu'il y ait encore cette pluridisciplinarité. Alors, par la suite, elle se construira petit à petit en fonction des besoins, mais surtout ne pas thématiser les campus en termes de recherche. S'agissant d'Aix de Marseille, de où on va implanter, quoi et où, aujourd'hui, parce que bon, c'est une question très politique, disons que nous allons faire en sorte qu'il y ait une implantation équilibrée sur les deux villes, même si l'équilibre fera qu'il y aura là aussi une coloration spécifique.
Je sens que le président Mercier va vous poser une question avant de se faire.
Merci, monsieur le président, ça me touche beaucoup. Alors, aujourd'hui, si je réponds plus largement, on peut identifier, suite à votre question, deux sujets. C'est d'abord la sélection à l'entrée de l'université, parce que c'est la question sous-jacente, et puis la répartition, je dirais, des bacheliers entre l'université et les écoles. Ouais. Puisque je n'ai pas voulu rajouter trop de propos sur toute l'histoire, mais bien évidemment, à côté des écoles, à côté de l'université, il y a les écoles qui ont été créées et qui persistent, et qui est un sujet compliqué pour l'université. Hein, compliqué. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, grossièrement, et je vais donc répondre à votre question, souvent les bons étudiants vont dans les écoles, et les moins bons ne vont pas dans les écoles. Ça nous pose un vrai problème. Et ça pose un problème, ce n'est pas un problème d'ego de l'université vis-à-vis de la concurrence, simplement, quoique. C'est aussi le fait que ça ne permet pas à de très bons étudiants d'être mis en position de faire de la recherche. En tout cas, pas en nombre suffisant. Et je pense que notre pays, contrairement à d'autres, est pénalisé à ce point de vue, parce que vous avez de très bons bacheliers, bac S, qui vont dans des grandes écoles, qui ont des hauts niveaux, mais qui vont s'orienter ensuite dans des directions multiples et variées, alors qu'ils auraient pu, par le biais de la recherche, apporter à notre pays et au plan mondial de la connaissance. Et on perd cela, contrairement à nos voisins, et je ne parle pas de l'Amérique du Nord. Donc ça, c'est ce qu'on peut aussi considérer comme une faiblesse pour la recherche. Et puis, certes, il y a les écoles, mais les écoles peuvent sélectionner. C'est-à-dire que arriver à mettre sur le marché un bon produit quand on l'a bien sélectionné et qu'il est bon dès le départ, c'est bien, mais ce n'est pas une performance. Par contre, quand vous avez à l'université à devoir intégrer tous les étudiants, devoir pour certains les mettre à niveau, plan réussite en licence, c'est ça. Et puis essayer de les faire progresser dans leurs connaissances, compétences, de pouvoir les insérer dans la société, ça c'est plus compliqué. Parce qu'au départ, vous ne partez pas forcément gagnant avec ces étudiants. Alors, aujourd'hui, c'est la mission de l'université. Et un grand débat, c'est est-ce qu'il faut que l'université, quand même, sélectionne ? Parce que, est-ce que c'est la mission de l'université de mettre à niveau des étudiants ? Le plan réussite en licence, il y a un article dans Le Monde, vous allez voir aujourd'hui, où les universités sont assez critiquées, c'est ça, c'est donner des moyens financiers pour élever le niveau de ces étudiants et pour diminuer l'échec en première année. Dans certains secteurs, c'est 40%. Est-ce que c'est la mission de l'université de mettre à niveau les étudiants ? Personnellement, ça n'engage que moi, je ne crois pas. Je pense qu'il y a un moment donné, il faudra se pencher en amont. Il faudra se pencher en amont. Parce que je ne suis pas certain que le plan réussite en licence, avec tous les moyens qui seront donnés, permettront de passer de 40 à 10%. Je ne le crois pas. Hein. D'autant plus que l'adhésion à tous les phénomènes d'accompagnement, qu'on le vit depuis 2 ans, eh bien, ceux qui adhèrent, souvent, c'est ceux qui en ont le moins besoin. Et donc, il y a bien un sujet qu'il faut travailler en amont, et que probablement notre pays refuse d'aborder en réalité. Aujourd'hui donc, pour répondre très concrètement, quand on dit ça va permettre d'attirer plus d'étudiants, ce que l'on souhaite, c'est que la meilleure visibilité de notre université attire aussi des bons étudiants qui aujourd'hui ne viennent pas parce qu'ils y verront là une possibilité d'acquérir des compétences qui permettront de les insérer. Et ça, c'est un véritable enjeu pour nous, en dehors du fait qu'on veut aussi attirer de bons étudiants internationaux, parce que un pays et la qualité d'un pays se juge aussi à la fréquentation des étudiants étrangers.
Monsieur Clarac.
Oui, je crois que je parle assez fort. Je vais essayer. Je voulais d'abord vous féliciter parce que je l'ai vécu justement ces 3 universités. Et je voudrais juste rapporter une anecdote. Quand j'étais au DEA de neurosciences, les neurosciences avaient réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est que ce DEA se faisait avec les 3 universités. C'était merveilleux, tout le monde se promenait, on disait « Regardez, là c'est très bien ». Le problème, c'est que je me souviendrai toujours, quand à la fin il fallait choisir les meilleurs étudiants et faire un classement, ben, je vous dirais que chacun de chaque université essayait de placer les siens. Et c'était pervers. Et c'était totalement pervers. Donc, merci pour arriver à faire quelque chose dont moi-même, je reconnais, j'étais très sceptique, et je crois que c'est une grande réussite. Alors, j'aurais une question. C'est que donc, tout commence au 1er janvier 2012. Comment, est-ce que vous le faites d'un seul coup, ou vous prévoyez, disons, des moments, des sortes d'arrangements pour que ça marche ? Enfin, comment ça va se passer ?
Oui, alors, effectivement, c'est une question que nous aussi on se pose. En clair, le 1er janvier 2012, tout ne sera pas mis en place comme on l'imagine dans le futur. Il y a 3 universités, il y a 3 agences comptables, pour redevenir très, très basique. Il y a 3 DRH, on est en train actuellement de préparer tout ça, puisque les 3 présidents ont demandé aux 3 directeurs généraux des services de préparer, et ça y est, ça a bien commencé, pour sortir les organigrammes, c'est-à-dire, on a prévu, je n'ai pas voulu rentrer dans le détail, mais j'ai pensé qu'on allait en discuter, c'était plus facile comme potentiel, parce que, enfin, en tout cas, ma vision, qui je pense est partagée par mes 2 collègues, il faut arrêter de considérer l'université comme simplement recroquevillée sur elle-même, qui produit de la connaissance, puis après on verra bien. Ça ne doit plus avoir cours pour les jeunes générations. On a une responsabilité majeure de la connaissance, un socle de connaissances solides qui permet de s'adapter au progrès et de comprendre le progrès, mais des compétences pour pouvoir ensuite être inséré dans la vie socio-économique. Alors, ce lien est fondamental. D'une part, je pense que le fait qu'il n'existera plus qu'une seule université donnera beaucoup plus de visibilité au monde académique de la part du monde socio-économique qui aujourd'hui, probablement, même sûrement, a un grand mal à se repérer dans ces 3 universités dont on ne sait pas qui fait quoi. Et la simplification du paysage, d'une part avec une seule université et d'autre part avec des composantes, une seule faculté de sciences, une seule faculté de sciences économiques et de gestion, doit donner des repères à nos partenaires socio-économiques qui faciliteront les échanges. Deuxièmement, on a déjà commencé, mais on entretient des liens de plus en plus importants avec le monde socio-économique, et ne serait-ce que la loi LRU nous a permis de mettre dans nos conseils d'administration un certain nombre de partenaires, des grandes entreprises, du monde socio-économique. La difficulté, je le conçois, c'est de les intéresser toujours à ce qu'on raconte. Parce que il y a une partie que l'on peut rendre intéressante et puis une partie qui peut paraître un peu rédhibitoire. Mais ne serait-ce que le fait d'avoir ces personnes aujourd'hui sur 30, dans la loi LRU, sur 30 membres du conseil d'administration, moi j'ai connu un conseil d'administration à 60, il n'y a plus que 30, il y a 8 personnalités extérieures. Et on peut arriver vraiment donc à mettre le monde socio-économique à l'intérieur. Le fait qu'il soit à l'intérieur de l'université, qu'il entende ce que l'on fait, ça permet d'établir des échanges. Mais des échanges, ce n'est pas simplement des échanges de convenance, c'est de nous aider aussi dans la construction des programmes. Des programmes qui ne doivent pas rester que théoriques, académiques, mais qui soient empris de réalité. Deuxièmement, c'est également l'opportunité de nous montrer du doigt ce que nous pourrions faire en termes de formation parce qu'il y a un vrai besoin, un besoin pérenne et que nous ne faisons pas. Également, d'être utile à ce monde socio-économique dans les formations continues, dans la formation tout au long de la vie, dans les formations courtes, pour mettre à niveau parfois des personnels, et donc de jouer vraiment ce rôle d'opérateur de formation. Et donc le fait d'avoir cette participation est très importante. Alors, la loi LRU a permis également de mettre en place des fondations, soit des fondations universitaires, soit des fondations partenariales. Monsieur Clarac le sait, on a mis en place dans mon université 2 fondations, santé, sport, développement durable, et puis une fondation qui est thématisée sur les traumatisés crâniens, les traumatisés rachidiens. Donc il y a 2 fondations qui nous permettent d'avoir ce lien avec le monde socio-économique et de permettre aussi d'aider la formation, d'aider la recherche. Pourquoi je me suis concentré sur santé, sport et sur cette spécificité des traumatisés crâniens? D'abord, c'est par légitimité, une université très tournée santé et sport, et s'agissant de tout ce qui environne la prise en charge des traumatisés crâniens, la recherche va de la cellule à la prise en charge du handicapé, hein, il y a tout le panel en lien avec le CHU, et puis parce que je ne voulais pas mettre en place des fondations qui pouvaient empiéter sur les deux autres universités, et donc avec le souci de fusionner, de dire quand on fusionnera, on amènera ça dans la corbeille de mariés sans qu'il y ait redondance ou conflit à terme. Donc on a vraiment ce souci du lien trop longtemps négligé. Les scientifiques, on dira, hein, ceux qui sont dans les facultés de sciences, ont été pour beaucoup les plus attachés, hein, à cette réunification. Mais dans ce processus complexe, il est toujours important de rappeler que c'est l'ensemble des secteurs, des secteurs qui se réunifient. Hein. Si d'aucuns penseraient que le seul objectif c'est la réunification des sciences, on pourrait à terme avoir quelques soucis. Donc je ne cesse d'expliquer qu'en créant une université unique, tout le monde y participe, tous les secteurs existent, et pas simplement le secteur scientifique. Parce que c'est un sujet.
Professeur Perchoir.
Oui,